Alors, vous savez ce qui s'en vient? On ressort les clickers. Mais jusqu'à maintenant, vous avez eu des questions plutôt faciles. Alors là, on va passer à une question qui est un petit peu plus intéressante. Alors, la question, c'est, parmi les sources d'énergie suivantes, laquelle fournit la plus grande quantité d'énergie au Québec? Alors, bon, premièrement, on va clarifier un petit peu la question. Notez qu'on parle ici de ce qu'on appelle des sources d'énergie primaires. Alors, une source d'énergie primaire, c'est une forme d'énergie qui est disponible dans la nature avant toute transformation et qui peut ensuite être convertie en produits énergétiques secondaires, tels que l'électricité ou l'essence, pour satisfaire nos besoins. Alors, on parle de sources d'énergie primaires. Et par exemple, si on regarde les trois derniers choix, C, D, E, les trois au Québec, c'est de l'électricité. Alors, l'hydroélectricité, évidemment, c'est de l'électricité. L'éolien, on s'en sert pour faire de l'électricité. Et la biomasse au Québec aussi, on s'en sert pour faire de l'électricité. Donc, c'est trois sources primaires différentes pour produire de l'électricité au Québec. D'accord? Alors, on a cinq sources d'énergie primaire. Et la question est de savoir laquelle fournit la plus grande quantité d'énergie au Québec. C'est une question un petit peu plus difficile que les autres, comme je disais. Alors, vous êtes libre d'échanger avec vos voisins avant de choisir et de bien en parler avant de faire votre choix. Essayez de vraiment trouver, en termes de quantité d'énergie, laquelle de ces cinq sources primaires-là est la plus importante au Québec. Entre-temps, je vais partir notre télévoteur. Alors, le vote est ouvert. Quand vous êtes prêt? Est-ce que tout le monde a fait son choix? C'est toujours votre dernier choix qui compte. Si vous changez d'idée, c'est pas trop tard. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Ça va? On va y aller. Tout le monde a choisi? OK. Le compteur monte encore un petit peu tranquillement. Trois dernières secondes. Deux, une, demi-seconde, on va arrêter ça. Ah ah! 49% hydroélectricité, 39% pétrole. On a bien choisi les deux premiers. Par contre, en fait, c'est dans l'autre ordre. Alors, le pétrole, si on regarde en termes techniques, fournit ce qu'on appelle 839 pétajoules par année, tandis que l'hydroélectricité fournit 691. Alors, c'est quand même une différence substantielle. On parle de environ 140 pétajoules de différence entre les deux, ce qui est quand même beaucoup d'énergie. Un pétajoule, c'est l'énergie consommée par le métro de Montréal en un an. Alors, c'est quand même beaucoup de différence. Et en fait, si on fait la somme des trois CDE que j'ai mentionnés, donc si on met l'électricité tout ensemble, ça nous donne 882 pétajoules. Donc, c'est vrai que l'électricité est plus que le pétrole, par une différence d'environ 40 pétajoules. Mais c'est pas juste l'hydroélectricité. C'est les trois formes d'énergie primaire ensemble qui sont plus que le pétrole. Alors, le pétrole représente encore une partie très, très grande de la consommation énergétique au Québec. Puisqu'on parle de pétrole, on parle évidemment beaucoup du fait que c'est utilisé dans le secteur des transports. C'est un des grands défis dans ce sens-là, c'est de réussir à électrifier. Teddy a parlé de l'importance d'électrifier le système énergétique. le système des transports, c'est un des grands défis. Une des alternatives, c'est d'utiliser des biocarburants ou des bioénergies de forme plus générale. Alors, notre prochain orateur va nous parler de bioénergie. C'est Jacques Baudry-Lozic, qui est diplômé de Polytechnique Montréal en génie chimique, 1982. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de l'énergie et de la technologie. Et en 2013, il s'est joint à Algenol Biofuels Incorporé à titre de vice-président senior de développement de l'entreprise et des affaires. Il est responsable pour la collaboration avec les analystes gouvernementaux sur les questions politiques et réglementaires. Il a aussi travaillé pendant plusieurs années au département de l'énergie aux États-Unis, chez McKinsey, General Electric et Shell. Et donc, je lui cède la parole pour nous parler de bioénergie.
Merci beaucoup pour l'introduction, Miguel. Ça me fait plaisir d'être retour ici dans cet auditorium après pratiquement 30 ans ou peut-être plus. Cette fois-ci du bon côté du podium. Mais j'espère que je vais vous garder éveillé plus que certains orateurs ont fait avec moi dans cette époque-là. Mais ça me fait aussi un grand honneur. Je veux aussi remercier beaucoup l'Institut Trottier pour leur initiative et pour leur invitation aussi. Ça, c'est vraiment un domaine qui me tient beaucoup à cœur. Puisque ça me fait beaucoup plaisir de partager mon expérience vraiment aux premières loges du lancement du programme énergétique sur les biocarburants aux États-Unis dans le milieu de la dernière décennie. Il y avait énormément d'inquiétudes sur les prix du pétrole, sur les importations, sur la sécurité énergétique, et l'administration américaine a décidé à ce moment-là que les biocarburants avec l'hydrogène et quelques autres priorités devaient être une nouvelle priorité pour le gouvernement américain. On a vraiment relancé essentiellement le secteur qui était apparemment basé surtout sur l'éthanol du maïs, mais qui était assez mineur, et vous verrez toutes les implications. Et ensuite, de façon intéressante aussi, je vais essayer de tirer quelques leçons de la situation américaine et les implications pour la situation canadienne. Ma présentation est aussi en anglais, puis j'ai absolument aucune excuse. Moi, je suis francophone. Je n'ai pas de clavier francophone, si ça peut vous satisfaire. Mais je vais donner ma présentation en français. Je vais parler un peu au début d'abord, qu'est-ce que le contexte de la politique énergétique aux États-Unis aujourd'hui et quels sont les grands enjeux. Et comment les biocarburants, la bioénergie fit dans tout ça. Je vais parler des ressources considérables de la bioénergie et de la biomasse aux États-Unis, parler des biocarburants, parler aussi de la bioélectricité et finalement des implications pour la politique canadienne. Mais je voudrais dire un mot d'abord sur la biomasse et c'est pour ça que je voulais faire ça un peu plus large que parler simplement des biocarburants. Alors, quand on parle des énergies renouvelables pour déplacer l'énergie fossile, on parle beaucoup de l'éolien, du solaire, et on parle de la géothermie des fois. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les énergies fossiles, comme le pétrole par exemple, nous donnent beaucoup plus que de l'énergie. Ils nous donnent aussi beaucoup d'énergie, d'électricité en fait, des carburants, mais aussi beaucoup de produits chimiques et des produits de construction, des polymères, des produits dont on se sert tous les jours. Et la biomasse est une forme d'énergie renouvelable essentiellement qui peut remplacer pratiquement la totalité d'un baril de pétrole, qu'un électron ne peut pas faire essentiellement. Donc, dans un sens, il faut vraiment regarder la biomasse comme étant un différent type d'énergie renouvelable que ces autres types d'énergie qui sont simplement concentrés sur les électrons. Bon, maintenant, on va passer rapidement aux mauvaises nouvelles. Maintenant, quel est le contexte de la politique énergétique à Washington? Alors, comme d'habitude, depuis les cinq dernières années, c'est un bras de fer total entre l'administration américaine et le Congrès. Pas grand-chose passe, essentiellement. L'administration a même abandonné l'idée d'avoir des projets législatifs avec le Congrès et a décidé de faire sa politique essentiellement par réglementation des différentes agences. Leur focus est pratiquement essentiellement complètement sur les changements climatiques. Et alors, ils voient l'énergie dans le prisme des changements climatiques. Alors, ça a vraiment évolué depuis la dernière administration, qui était d'abord plus concentrée sur la sécurité énergétique. Alors, ça a changé un peu leur portefeuille de solutions et de concentration. Il faut dire aussi qu'en même temps, on a eu une amélioration de la production de pétrole et de gaz naturel énorme. Les importations de pétrole sont au plus bas depuis 45 ans. La demande de gaz maintenant est pratiquement complètement remplie par la production nationale. Alors, la sécurité énergétique, c'est pas quelque chose qui se vend très bien maintenant pour des programmes congrès. Alors, le changement climatique est le principal driver en ce moment. Alors, l'administration, le plus grand programme, c'est vraiment le programme de l'Agence de protection de l'énergie, le EPA, pour réduire les gaz à effet de serre. Ils ont le Clean Energy Power Plan en ce moment qui est sorti, qui demande aux États de promettre des plans de réduire leurs émissions de 20 à 30 d'ici les 15 prochaines années. Et les États doivent remplir ces conditions-là d'ici un an. C'est la guerre totale entre les républicains et l'administration en ce moment, parce que plusieurs États de charbon qui ont des sénateurs et des représentants républicains, mais enfin, ça prend beaucoup d'attention de l'administration essentiellement, puis beaucoup des autres sujets en perdent. Ils sont très forts sur l'efficacité énergétique aussi. Il y a un programme d'économie pour les automobiles d'aller à 54 000 par gallon en 2035. Ce qui est à peu près le double de la consommation actuelle des automobiles. Et aussi, on a quand même maintenu un support assez fort de l'énergie renouvelable. Et ce qui a fait avec les biocarburants, ils supportent les mandats sur le biocarburant qui s'appelle le Renewable Fuel Standard. Le Congrès, eux, sont plus concentrés sur permettre une législation pour exporter du pétrole et du gaz naturel. Le pétrole, il y a une loi qui interdit aux États-Unis d'exporter du pétrole aujourd'hui. Et ils essayent de essentiellement passer une loi pour permettre des exportations nouvelles. Et ils veulent ouvrir les terrains, les terres publiques au gaz naturel, comme on dit, au fracking, comme on dit en commun, là, le gaz de schiste. Et ils vont passer beaucoup d'énergie dans les prochaines années ou deux sur ça. Et évidemment, vous avez entendu le pipeline Keystone XL, c'est une grosse région de concentration des républicains. Ils ont aussi beaucoup d'efforts à couper les budgets de l'EPA. Maintenant, ils contrôlent la bourse essentiellement maintenant, et ils essayent de réduire les impacts de l'EPA en coupant leur budget. Alors, dans le sens que l'EPA est en charge d'administrer le mandat de biocarburant, ça ralentit beaucoup les efforts d'administration de l'EPA, puis ça ralentit l'implantation de toutes ces différentes politiques. C'est possible qu'il y aura une législation sur l'énergie en 2015. Je dirais c'est probablement en 2016, après les élections primaires de février. Il y aura une petite fenêtre au printemps prochain. Mais si je vois mon expérience aux États-Unis, en général, il y a des... Les législations énergétiques, il y a une grande crise de l'énergie. En ce moment, il n'y a pas de crise, donc il n'y a pas d'urgence en ce moment. Je pense qu'il y a quand même des endroits où il peut y avoir des accords entre les démocrates et les républicains, et les biocarburants en est un. Je pense qu'il peut y avoir un accord de réduire l'importance du mandat sur l'éthanol du maïs et renforcer le mandat sur les technologies de deuxième et troisième génération. Je pense que les États sont dans une phase où les États, essentiellement, sont pratiquement plus importants que le gouvernement fédéral. La Californie a pris un nombre d'initiatives sur le carbone, par exemple. Il y a évidemment aussi une initiative dans le nord-est de 9 États, Greenhouse Gas Initiatives. Il y a 29 États qui ont des mandats de production électrique renouvelable. C'est très, très important. Et beaucoup de ces États renforcent ces mandats-là récemment. Parlons de la ressource de la biomasse. Comme je dis, c'est une ressource énorme. Il y a 1,4 milliard de tonnes qui peut être exploitée à relativement court terme aux États-Unis. Ça représenterait à peu près un tiers de la consommation qu'on aurait besoin pour les transports. Il y a un total de 8 milliards de tonnes, en fait, de biomasse aux États-Unis, mais on considère qu'environ juste 20 % de cette biomasse est exploitable économiquement ces jours-ci. Les inputs et les entrants, ça inclut les algues, la lignocellulose, les déchets urbains, par exemple, les déchets agricoles, et aussi ce qu'on appelle les plantes énergétiques. Évidemment, il y a toutes les cultures agricoles plus classiques, comme le maïs et le soja et la canne à sucre, et la forêt. Et puis si on regarde ça, on dirait, je dirais que les sources de biomasse qui viennent des aliments agricoles sont à peu près de 10 % la forêt peut-être un tiers, et les sources cellulosiques sont peut-être 40 % et plus. Et les algues, on est juste en train d'établir le potentiel des algues. D'après moi, ben, je travaille pour une compagnie d'algues, je pense que le potentiel est immense, mais les barrières sont aussi immenses aussi. Et c'est un domaine à haut risque, mais le potentiel ultime est énorme. La biomasse est transformée dans plusieurs produits intermédiaires comme les bio-oils, les huiles vierges, les sucres, la lignine et les biogaz, et sont transformés dans des produits finaux, les carburants, mais comme je dis aussi, de l'électricité, des produits chimiques et des produits pour l'industrie alimentaire. Alors, ils peuvent produire et remplacer les produits classiques, les produits fossiles dans un certain nombre de domaines. Mais la dimension de la ressource en biomasse est énorme, et je pense, d'après moi, je n'ai jamais vu aucune étude sur le Canada, mais il suffit juste de prendre un avion et traverser le Canada, on voit que les ressources en biomasse sont pratiquement infinies aussi. Parler un peu des bénéfices et des coûts. D'abord, en temps de changement et de gaz à effet de serre, si on regarde les émissions de différentes sources, le charbon envoie par exemple 1000 grammes de dioxyde de carbone par kilowatt-heure. Gaz naturel, c'est un peu moins de la moitié, 477. C'est pour ça qu'on a vu tant d'améliorations aux États-Unis dans la dernière décennie. On est en train de changer vers le gaz naturel. Mais la biomasse n'a que 50 grammes par CO2. Alors, les usines de biomasse sont pratiquement pas net émetteurs de gaz à effet de serre. Pour les carburants, c'est un peu la même chose. La gasoline, si on prend un exemple de 100 en émissions de gaz à effet de serre, si vous regardez l'éthanol au maïs, en moyenne, c'est environ 80, soit on améliore le profil d'environ 20 %. Le biodiesel, à peu près 50 %. L'éthanol de canne à sucre, ça va de 60 à 70 %. Et les algues et les produits cellulosiques, ça peut être de 70 à 80, même 90 % dans le cas du switchgrass de séquestration. Alors, vous émettez beaucoup moins de gaz à effet de serre avec ces biocarburants. Si on regarde, par contre, le défi, c'est d'être compétitif avec les sources d'énergie actuelles. Alors, si vous regardez un coût d'une nouvelle usine de charbon ultramoderne, gazéifié, c'est environ 100 $ par mégawatt-heure, gaz naturel peut-être 60. La biomasse en coproduction d'usine, ça peut être compétitif à 60. C'est surtout là que la biomasse et la bioélectricité s'est implantée aux États-Unis. Et la biomasse directe est encore assez dispendieuse, à peu près 110 $ par mégawatt-heure. Au côté des carburants, on est déjà assez compétitif avec la gasoline, si on prend le pétrole brut à 70 $ par baril. L'éthanol au maïs, la canne à sucre peuvent tous compétitionner à peu près à 2 $ par gallon de production, comme la gasoline. Et l'éthanol cellulosique, d'après moi, a encore quelques années à faire avant d'attraper ce coût. C'est pour ça qu'on a encore besoin de mandats pour les technologies avancées, mais je suis moins convaincu maintenant qu'on a besoin de mandats pour l'éthanol de maïs, par exemple, comme on appelle, ou l'éthanol de la première génération. La croissance des biocarburants était spectaculaire aux États-Unis depuis 2000, en 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux ou trois facteurs. Numéro un, les États-Unis ont éliminé le MTBE, qui était l'additif dans la gasoline qui donnait la puissance d'octane à la gasoline pour des raisons environnementales. L'éthanol a remplacé ça. Fait qu'automatiquement, c'est 6 % de la consommation d'essence est devenue avec l'éthanol. Ça s'est fait en 2002 et 2006. Au même moment, il y a eu deux législations passées en 2005 et en 2007 qui ont établi un mandat de production de biocarburants. En 2007, c'était un mandat très, très ambitieux, de 36 milliards de gallons qui doivent être produits en 2022, soit 20 % de notre consommation en transport. Le mandat a été beaucoup, beaucoup de succès du côté de biocarburants de première génération, un peu moins, beaucoup moins même, sur les carburants de deuxième génération, et j'en reviendrai un peu plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? La production du Brésil a plafonné pour une couple de raisons. Numéro un, les prix du sucre sont très élevés, alors c'est plus avantageux aux Brésiliens de vendre leur sucre que de le transformer en éthanol. Parce que le prix de l'éthanol aussi est très bas parce qu'il est lié au prix de la gasoline. Et surtout depuis le nouveau président Dilma Rousseff a gardé des prix subventionnés de gasoline très, très bas. Donc, les valeurs de l'éthanol est très basse, la valeur du sucre est très élevée. Qu'est-ce qu'on fait? On vend le sucre dans les marchés globaux. On ne fait pas beaucoup d'éthanol. Alors, en fait, paradoxalement, on exporte de l'éthanol au maïs au Brésil quand ça coûte probablement deux fois plus cher à faire qu'au Brésil à cause de ces politiques gouvernementales un peu irrationnelles. L'Europe a environ 14% de production, de part de la production mondiale, 13 ou 14%, c'est surtout des biocarburants. Il y a beaucoup de débats contentieux en Europe, surtout à cause l'utilisation de biodiesel, mais dont les matières premières viennent d'Indonésie, de plantations et qui mènent à la déforestation. Alors, leur mandat est un peu flottant. D'après moi, on ne verra pas beaucoup de croissance en Europe dans les 5 ou 7 prochaines années. Le reste du monde, c'est 14%, ça inclut le Canada. Et vous voyez la tranche minuscule vers le bas, ça, c'est le Canada, et c'est 23 usines d'éthanol et de biodiesel. Qu'est-ce qui a causé la croissance? Donc, les politiques, comme j'ai dit, je veux ajouter aussi la politique des crédits d'impôt aussi, de 45 sous à 1 $ par gallon sur l'éthanol pour pratiquement plus de 30 ans. Je pense qu'il y a eu 45 milliards de subventions sur l'éthanol au maïs. Ça a pris beaucoup d'argent, ça a pris beaucoup de temps. Ça, je pense, c'est une leçon pour toutes les formes d'énergie renouvelable. Il faut être patient, il faut voir ça à long terme. Le crédit a expiré en 2011 et l'éthanol au maïs se porte encore très bien à cause des mandats. Il y a eu le Recovery Act, donc le budget de relance de 2009, a investi 800 millions dans les projets de biocarburants, qui a financé jusqu'à 10 projets de démonstration de biocarburants avancés à travers les États-Unis. Et ce qui se passe maintenant, en 2010, c'est, si vous voyez, la croissance a beaucoup ralenti. Fait que si on attend ce qu'on appelle le mur de mélange ou le blend wall, je n'ai pas la traduction exacte, mais c'est essentiellement que l'essence aux États-Unis peut se vendre jusqu'à 10% d'éthanol dans la gasoline et on a atteint ça. Il y a une option de vendre maintenant du E15, qu'on appelle 15% éthanol ou du E85, mais il y a très peu de véhicules qui peuvent se servir du E85. Et le E15 n'a pas encore des garanties avec tous les véhicules, toutes les compagnies de véhicules. Alors, il y a peut-être juste 100 stations sur 140 000 aux États-Unis qui vendent du E15. Donc, les compagnies d'éthanol ne peuvent pas vendre d'éthanol plus que le E10, qui est environ 14 milliards de gallons par année. Et font beaucoup de lobbying aux États-Unis pour pouvoir vendre plus d'éthanol. Ce qui s'est passé essentiellement, donc, depuis 2011, c'est que les États-Unis maintenant exportent beaucoup plus d'éthanol au Brésil et au Canada, entre autres, mais aussi aux Philippines et au Moyen-Orient. Alors, on exporte près d'un milliard de gallons d'éthanol par année maintenant à cause de ce mur. En ce moment, donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, à cause du succès, paradoxalement, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Parce que l'éthanol a fait monter beaucoup les prix du maïs, doublé jusqu'à un certain temps, bien que ce soit maintenant stabilisé. Alors, il y a beaucoup d'opposition qui s'est basée sur le mandat. Les environnementalistes, notamment, objectent beaucoup à ce mandat-là. Alors, s'il y a une législation sur l'énergie, d'après moi, le mandat sur l'éthanol de maïs va être affaibli et le mandat sur les nouvelles technologies va être plus remplacé. Aussi, ce que je veux montrer ici, cette chart-là, c'est le contexte aussi. C'est, si vous regardez les importations de pétrole des États-Unis en 2005 et 2014, ils sont passés d'environ 13 millions de barils par jour et aujourd'hui, je pense, autour de 3 ou 4 millions de barils par jour. Alors, il y a moins de pression pour les sources de carburants alternatifs qu'il y avait il y a 10 ans, par exemple. Si les prix du pétrole sont aussi très bas. Les carburants avancés, c'est une option émergente. Ce sont des projets dans le monde qui font maintenant des carburants qu'on appelle de deuxième génération, donc qui réduisent les GES d'environ 70 à 90% comparé à la gasoline. POET DSM, c'est un projet d'éthanol cellulosique En Iowa, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, qui produit environ 20 millions de gallons par année. Et il est attaché à un plan, une usine d'éthanol au maïs. Alors, il sert simplement de la canne de maïs pour alimenter l'usine d'éthanol cellulosique, qui est à ce moment-là, les sucres sont extraits, fermentés et aussi transformés en éthanol, et l'usine partage son système de distribution. C'est un des projets qui a été fondé par le département de l'énergie. La photo à droite, ça c'est mon seul infomercial de ma présentation. Ça c'est ma propre compagnie qui convertit du carbone, du dioxyde de carbone par des algues en éthanol. On produit ça sur deux acres au niveau de démonstration à Fort Myers et on planifie ouvrir une usine commerciale l'an prochain pour produire environ 16 millions de gallons par année, adjacent à une usine de charbon utilisant leur dioxyde de carbone. Il y a Neste Oil, qui est un projet qui est à Singapour, qui c'est la plus grande usine de biocarburant avancé au monde. Je pense qu'il produit 100 à 200 millions de gallons par année. Un projet d'hydrotraitement de biomasse, de produits qui sont contenus oléagineux. Ils font un excellent diesel renouvelable et ils sont compétitifs avec le pétrole. Alors, c'est une des meilleures histoires de succès dans le monde. Ils essayent de... Maintenant, ils ont des plans, des usines en Europe, à Singapour, et ils essayent maintenant de s'établir et de bâtir 5 à 7 usines aux États-Unis. Je disais, le mandat de première génération de biocarburants est un très grand succès. Le mandat très ambitieux pour les carburants avancés n'est pas sur le même chemin de succès pour plusieurs raisons. D'abord, les buts n'étaient pas réalistes. Le Congrès a écouté quelques charlatans dans l'industrie qui ont dit que d'ici 2 ou 3 ans, on peut produire 3 milliards de gallons d'éthanol cellulosique. Bon, ça a pris 7 ans d'en faire 30 millions de gallons. C'est, comme j'ai dit avec l'éthanol de maïs, ces technologies se prennent du temps d'évaluer, il faut que les gouvernements soient patients, et ils ont oublié toutes ces leçons-là, et ils ont vendu un peu trop la technologie au gouvernement. Il y avait trop, le mandat n'était pas assez solide pour forcer les raffineurs à se servir d'éthanol cellulosique. So, par exemple, on peut échapper au mandat si on paye une prime de 75 sous par gallon. Mais souvent, les prix de l'éthanol cellulosique sont 2 à 3 $ par gallon plus cher que la gasoline. Alors, ils payent juste la punition au lieu d'acheter l'éthanol cellulosique. Alors, un mandat si faible, ça n'a pas forcé aux raffineurs ou à l'industrie du pétrole à investir beaucoup dans les biocarburants, comme ils ont fait dans l'éthanol de maïs, par exemple. EPA était incroyablement lent à approuver les nouvelles méthodes de production. On fait des études qui ont pris 1, 2, 3, 4 ans. Si on parle de compagnies start-up qui ont 20 millions en banque, qui dépensent 3 millions par mois, ces attentes de 4 ans-là par l'EPA n'étaient pas raisonnables. Certaines compagnies ont reçu leur approbation pour la méthode de production 1 an après qu'ils ont été en banqueroute. Je veux dire, ça s'est amélioré récemment. Le système de garantie de prêt du gouvernement américain est très bon pour les systèmes d'éoliennes et solaires, pour la production d'électricité, mais n'est pas du tout adapté aux produits de biocarburants. Par exemple, ils demandent des contrats de 30 ans pour votre produit avant d'approuver la garantie de prêt. Bon, ça se fait très bien dans l'industrie de l'électricité. On peut avoir des contrats de 20, 30, 40 ans à prix fixe. Dans le domaine des carburants, ça ne s'est pas fait depuis 40 ou 50 ans. On ne fait simplement pas ça. C'est un marché liquide au jour le jour. Alors, ces contrats à long terme n'existent pas. Alors, ils ont forcé essentiellement les biocarburants à remplir des modèles qui ne marchaient pas. C'est pour ça qu'il y a eu juste 1 ou 2 projets qui ont été approuvés. Et un des 2 projets a dû faire de la bioélectricité en même temps. Et aussi, la crise financière en 2008, la baisse des prix du pétrole récent, vraiment fait des rendu très difficile de financer des projets qui sont les projets pionniers ou le premier type de projet dans leur domaine. Bioélectricité aussi ont leur propre part de problèmes. Si on regarde, on a parlé des prix du gaz naturel là. Si vous regardez après 2008, les prix du gaz naturel se sont écroulés après l'augmentation constante de la production de gaz de schiste aux États-Unis. qui a atteint, je pense, 27 milliards de quadrillions de TCF l'an dernier, 27 trillions TCF l'an dernier, qui est la plus haute production de tous les temps, qui est la plus haute production mondiale maintenant. Encore là, toutes les utilités passent maintenant au gaz naturel. C'est probablement 90 % de leurs investissements. Et la bioélectricité n'est simplement pas aussi attrayante. Au milieu des années 2000, il y avait un gros regard sur la bioélectricité, mais maintenant, on regarde ça moins. La production, si vous comparez ça au biocarburant, a été très lente. On a à peu près, je vous dirais, 11 gigawatts installés aux États-Unis. Et si je pense à la présentation plus tôt, les capacités facteurs, une des bonnes choses avec les biocarburants, sont à peu près 90 %. Fait que 11 gigawatts, c'est l'équivalent de peut-être 45 gigawatts de solaire. La plupart des installations sont des installations industrielles, de cogénération de chaleur et électricité. Il y a eu des incitatifs fiscaux énormes dans les États du Nord-Est en particulier où ça s'est développé. Et les producteurs d'électricité indépendante qui aussi vendent directement à ces projets industriels. Ça, l'industrie des pâtes et papiers, l'industrie chimique et ces types d'industries-là qui consomment beaucoup d'énergie ont été beaucoup intéressés dans le domaine. Mais essentiellement, ça s'est bâti dans le milieu des années 80-90. Il y a une petite remontée récemment parce que les États du Nord-Est ont augmenté la part d'électricité dans leur mandat, d'électricité renouvelable dans leur mandat, mais c'est assez stable en ce moment. Ce qui se passe donc essentiellement, un peu comme au Canada, c'est que la plus grosse industrie dans la bioélectricité, c'est de pelletiser, faire des pellets de qu'on appelle le biocoal, et de vendre ça en Europe. Alors, la plupart des copeaux de bois sont pelletisés dans le sud-est des États-Unis, sont exportés en Europe et fournissent peut-être beaucoup plus d'électricité là qu'ils en font ici. Parce que les mandats de l'Union européenne de 20 % d'énergie renouvelable en 2020 ne sont pas force l'Union européenne à importer beaucoup pour la bioélectricité. Je dirais donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'incitatif pour changer beaucoup pour les utilités de mettre plus de biomasse dans leur bouilloire. Peut-être la législation de l'EPA, une fois qu'elle passe en cours pour rendre les usines au charbon et les usines plus propres, sera un driver. Par exemple, si on fait un mélange de 30 ou 40 % de copeaux de bois avec le charbon, on peut améliorer notre profil. C'est peut-être ça qui va se passer. Je pense que les bioélectricités n'a pas eu la parité fiscale avec l'énergie solaire et l'éolienne. La parité aiderait beaucoup au développement de la technologie. Ça, c'est une leçon qui peut s'appliquer au Canada aussi. Et je pense que le plus grand facteur de croissance sera les différents États et leur mandat de production électrique qu'ils appellent le Renewable Portfolio Standards aux États-Unis. Et les systèmes d'échange, de permis et de crédit de carbone, comme dans REGI, par exemple, et en Californie, la zone Californie-Québec. Alors, au Canada, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aurais appris aux États-Unis qui pourrait s'appliquer au Canada aussi dans le domaine des biocarburants? Comme je vous ai dit, pour les chiffres un peu trop ambitieux, on ne peut pas aller trop en avant de la courbe économique ou de la capacité technologique des technologies. Les politiques à long terme, recherche et développement, programmes, supports fiscaux, est absolument essentiel sur les technologies émergentes. On ne peut pas avoir une politique de 3 ans et changer ça tous les 3 ans. Il faut vraiment penser des décennies à l'avance. Juste comme dans les États aux États-Unis, les provinces peuvent avoir un rôle très important à jouer. Puis, spécialement dans le domaine de la biomasse, qui est une ressource régionale et qui varie beaucoup d'une région à l'autre et d'un climat à l'autre. Alors, les options de politique peuvent être importantes. C'est d'abord harmoniser les règles de marché, les barrières de réglementation. Les garanties de prêt sont un outil important, mais doivent être adaptées à l'industrie qu'ils ciblent. Les mandats marchent le mieux quand ils sont uniques et essentiellement nationaux, mais les mandats régionaux sont aussi importants. Et je pense que des objectifs raisonnables aussi sont aussi importants parce que l'industrie peut perdre beaucoup de crédibilité très rapidement dans les médias et les sphères importantes si les mandats ne sont pas remplis. Je dis les productions, des incitatifs fiscaux aussi à long terme sont très importants, mais c'est plus une fois où les technologies sont commerciales, elles peuvent être déployées, parce que ça n'a pas fait beaucoup pour les technologies émergentes. Et je dirais aussi le financement gouvernemental de la recherche est extrêmement important. Et moi, ce que j'ai vu qui avait le plus de succès, c'est vraiment les partenariats entre les gouvernements, l'industrie privée et les universités. Et d'après moi, c'est un modèle de succès qui peut être répliqué ailleurs. C'est pour moi. Merci.